Chapitre 7. Lorsqu'elle quitta les lieux un peu plus tard dans la soirée, Agatha pria Charles de ne pas avertir la police. Elle avait eu son content d'interrogatoire. De plus, tout le monde semblait convaincu que c'était Felicity qui avait lancé le vase. Elle avait dit à Julianne qu'elle rentrait directement se coucher, mais elle passa tout de même par la cuisine pour appeler ses chats. « Par ici, mes petites vermines velues ! Je vous promets un régal si vous rappliquez tout de suite, sinon ce sera des croquettes !» Agatha n'avait jamais pensé qu'elle aimait vraiment les animaux. C'était Bill Wong qui lui avait donné son premier chat, baptisé Hodge. Un jour où il s'était enfui, elle avait ramassé un chat tigré dans une rue de Londres, pensant qu'il s'agissait du sien, et avait décidé de l'adopter. James avait choisi leur nom en hommage à Samuel Johnson. Il avait un chat nommé Hodge, et son biographe et ami s'appelait Boswell. Agatha n'en détestait pas moins le docteur Johnson. Dans les Cotswolds, il y avait toujours une maigrichonne prétentieuse pour citer les bons mots du célèbre écrivain. « Ohé, vous êtes là ?» appela-t-elle en ouvrant la porte du jardin. Saisie par l'inquiétude, elle se précipita dehors en lançant des appels affolés et finit par retraverser la maison pour aller frapper à la porte de James. « À l'aide !» cria-t-elle à pleine voix. La lumière s'alluma à l'intérieur et James apparut à une fenêtre de l'étage. « James, quelqu'un a enlevé mes chats !»
Tu en es bien certaine ?
Mais oui ! Il ne serait jamais parti tout seul !
Préviens la police, je te rejoins dans une minute.
Au moment de tourner les talons, Agatha surprit une voix de femme dans la maison.
Qu'est-ce qui se passe, mon chéri ?
Juste une voisine qui a un souci, va vite te recoucher.
À cet instant, elle se moquait bien que son ex-mari ait une nouvelle maîtresse. Elle alerta d'abord la police, puis rameuta toute son équipe pour la mettre sur l'affaire. Lorsque James arriva, elle était affalée sur le sol de la cuisine et pleurait à chaudes larmes. Après lui avoir donné un grand mouchoir, il sortit dans le jardin en appelant les chats. En règle générale, les services de police ne se dérangeaient pas pour deux chats disparus. Mais Bill Wong, le premier à se présenter sur les lieux, devinait que cet enlèvement équivalait à une menace. Il fut bientôt rejoint par les détectives de l'agence, qui entreprirent immédiatement d'écumer le village avec lui. Une femme fit alors son apparition dans la cuisine d'Agatha, vêtue d'un peignoir pour homme. Une grande blonde aux yeux gris, avec des pommettes saillantes. Malgré son désarroi, Agatha ne manqua pas de reconnaître le peignoir de James Lacey.
« Où est passé James ?»
s'enquit la nouvelle venue. Mrs. Blugsby, qui venait d'arriver, la prit à part pour lui parler, puis elle s'assit par terre à côté d'Agatha.
« L'inspecteur Wong va certainement repasser. On a glissé un message sous ma porte. »«
Et que disait-il ?»«
Ah, voici Bill, justement. »«
Agatha, » dit-il, « on vous réclame une rançon. »
Si vous ne payez pas 50 000 livres d'ici demain 11 heures, vous reverrez vos chats en pièces détachées. D'autres instructions suivront pour préciser le lieu où vous devrez déposer l'argent.
Un jour, Agatha avait dit pour plaisanter que tous les hommes de Glasgow semblaient s'appeler Jimmy. Le serveur du restaurant grec s'appelait bel et bien Jimmy et il bouillait de rage. Il n'avait pas reçu son salaire et le patron s'était borné à lui dire qu'il n'avait plus un sou. L'établissement allait fermer ses portes, un restaurant indien devait le remplacer. Jimmy détestait farouchement l'évêque, mais il craignait le doyen. Jugeant que dans ces circonstances, un vol serait tout à fait justifié, Jimmy se munit d'un passe-partout et se dirigea vers la résidence épiscopale. Arrivé à destination, il vit de la lumière briller sous la porte et perçut un bruit de conversation. Rendu furieux par cette déconvenue, il colla l'oreille contre la porte et entendit l'évêque demander.
« Vous êtes sûr que cette peau de vache tient vraiment à ses chats ? D'un autre côté, elle n'en aurait pas si elle ne les aimait pas. Et la police ne risque pas de se déplacer pour une histoire de chat perdu. »
Le doyen répliqua d'un ton sarcastique.
« Une demande de rançon ! Mon Dieu ! Ils vont passer la ville au peigne fin ! Vous avez perdu la tête ou quoi ?»«
Oh, ça va. Elle a intérêt à payer, sinon elle va trouver une patte de chat dans sa boîte aux lettres. » « Ma mère a rendez-vous demain avec son comptable et il faut absolument que j'aie remis l'argent d'ici là. »
Jimmy s'éloigna en se triturant les méninges. S'il les faisait chanter en menaçant de tout révéler, il ne doutait pas d'avoir de gros ennuis. Les deux fois où il avait monté des coups, il s'était fait pincer et avait atterri en prison à Glasgow. Le mieux, c'était d'attendre le départ des deux hommes, d'emporter les chats et de les déposer quelque part dans ce patelin, car Carsley, si ses souvenirs étaient bons. Agatha lui en serait reconnaissante. Ensuite, il reviendrait à l'évêché et tâcherait de cambrioler le bureau. Si l'affaire tournait mal,
L'évêque affirmerait que Jimmy était hors de cause, faute de quoi, il n'hésiterait pas à les faire tomber, lui et son doyen. Son plan était passablement confus et miteux, mais Jimmy avait une certitude. Quand il visait trop haut, il se faisait invariablement choper. Tapi dans un renfoncement du couloir, il attendit que les deux hommes se retirent. Apparemment, ils avaient laissé les deux chats sur place. Dès que le silence fut complet, Jimmy commença à batailler avec son passe-partout. Lorsqu'il réussit à entrer, une demi-heure plus tard, deux paires d'yeux se braquèrent sur lui depuis un grand bac à litière. Par chance, les chats ne firent aucun bruit. Dans un angle de la pièce, il remarqua un gros coffre-fort. Mais de nos jours, plus personne ne gardait ses billets là-dedans. Il se rabattit donc sur un grand bureau dont il força la serrure, découvrant à l'intérieur un solide coffret métallique. Ses yeux brillèrent de joie en voyant les milliers de livres qu'il contenait. Il ne lui restait plus qu'à filer à moto avec ce paquet de fric et en route pour l'Espagne. Et les chats dans tout ça? Tant pis, ils pouvaient bien crever ces deux-là. Cependant, Hodge laissa échapper un petit miaulement plaintif, et Jimmy, superstitieux comme beaucoup de malfaiteurs, eut peur de s'attirer la malchance s'il les abandonnait à leur sort. Il allait plutôt les déposer au village, comme prévu. Tout à coup, il fut envahi par une telle haine envers l'évêque qu'il se débrouilla au prix de quelques efforts pour déféquer sur le bureau et arroser d'urine le fauteuil en cuir. Agatha avait fini par s'assoupir, épuisée d'avoir tant pleuré. Mrs. Blugsby s'était endormie auprès d'elle, un bras autour de ses épaules. Les gens étaient de plus en plus nombreux à se joindre aux recherches et on entendait un brouhaha de voix à l'extérieur. Quelque chose alors tira Mrs. Blugsby du sommeil et quand elle ouvrit péniblement les yeux, ce fut pour se trouver nez à nez avec Hodge. Elle poussa un cri et donna un grand coup de coude à Agatha à l'instant où Boswell faisait son apparition. « Mrs. Raisin, réveillez-vous !» La nouvelle ne tarda pas à se répandre. Et quand les détectives revinrent, les deux chats se régalaient de maquereaux à la sauce tomate, un de leurs aliments favoris. Les problèmes ne font que commencer, calcula Mrs. Blugsby en voyant passer une ombre sur le visage de son amie. Si je reste ici, elle va me bombarder de questions sur la nouvelle conquête de Mr. Lacey. Elle se dépêcha donc de repartir après avoir serré Agatha dans ses bras. L'évêque contemplait avec une colère froide le saccage de son bureau. Impossible d'appeler la police. Il aurait beau tout récurer, les experts s'arrangeraient quand même pour dénicher des poils de chat sur les lieux. On n'aurait jamais dû toucher à l'argent de la maison de retraite, lui reprocha le doyen. Dépenser une fortune en Thaïlande, c'était une idée stupide. Vous n'aviez pas vu que cette fille était mineure ou quoi? Comment aurais-je pu le savoir? Ce foutu pays met des bataillons de gamines sur le marché. Peut-être, mais permettez-moi de vous rappeler cette blondinette du Sussex, Sharon, ainsi que sa redoutable sœur. Qu'est-ce qui vous a pris? En général, ça vous suffit que les filles vous courent après, vous êtes capable de vous tenir! Quelle comédienne! Fit l'évêque avec un petit rire aigre. Les beaux cheveux blonds, le bronzage et les taches de rousseur. Bien, on ferait mieux de s'atteler au nettoyage. C'était votre plan, rétorqua le doyen. Vous n'avez qu'à nettoyer vous-même, la mortification est un remède pour l'âme. Agatha s'était effondrée sur le canapé, les deux chats nichés contre elle. Lorsqu'elle se réveilla, les souvenirs commencèrent à affluer. Répondre à la police l'avait vidée de ses forces, mais au moins, ses chats étaient sains et saufs, et un agent était resté en faction devant sa porte. Dans ce cas, pourquoi sentait-elle une ombre noire s'attarder dans un coin de son esprit? Elle se redressa d'un mouvement brusque, bousculant les chats indignés. James! Elle avait eu l'intention de se renseigner sur cette femme, mais il avait d'abord fallu faire une déposition. Et ensuite, on lui avait conseillé de prendre du repos. Plus personne ne semblait décidé à lui répondre. Trop impatiente, soudain, pour aller décrocher son téléphone fixe, elle fouilla dans son sac à main à la recherche de son portable. Douillettement installé dans un fauteuil près du feu, Charles lui dit d'un ton désinvolte. « Qu'est-ce que ça veut bien te faire? Ton mariage avec James était foireux, mais tu voudrais quand même te l'accaparer. » Quand il s'agit des femmes, il est d'une bêtise invraisemblable. Rappelle-toi la fois où il a craqué pour Tony.
Tony ferait craquer n'importe qui.
Il a quand même des limites.
James ne les a pas vues, en tout cas. Ne sois pas ridicule, Agatha. Au lieu de te demander qui a embarqué tes chats, tu te fais tout un film à propos de ton ex.
Qui est cette femme ?
Oublie ça, tu veux ?
S'il te plaît, Charles, c'est seulement de la curiosité.
Ok, tu l'auras voulu. Elle s'appelle Nadia Lonkar. Elle vient de Croatie et elle travaille à la boutique Cotswold Chic de Merchester. Ils doivent se marier samedi.
Quoi ? Ce sale faux-cul ne m'a même pas envoyé d'invitation !
Agatha fondit en larmes, ébranlée par ses mésaventures de la veille.
« Je me demande bien pourquoi je lui réponds, »
fit Charles à l'intention des chats.
« Écoute-moi, Guy. À gauche sur ton bureau, tu as une corbeille pour le courrier à jeter. Tu vois ces invitations sur beau papier pour des vernissages ou ce genre de choses ? Eh bien, je parie que tu as balancé le faire-part dans la pile sans même le regarder.
« Tiens, je l'ai trouvé !»
dit-il en brandissant le fameux courrier. Agatha ne voulut même pas le voir.
« Bon, je te laisse à tes larmes. Mets-toi au lit et repose-toi bien. »
Un mois plus tard, ce fut un Jimmy métamorphosé qui monta à bord de l'Eurostar, vêtu d'un beau costume anthracite avec cravate en soie et chemise blanche, rasé de frais et les cheveux courts. Il transportait ses billets dans une mallette en cuir. En cas de fouille, il se serait attiré de gros ennuis. Mais il avait décidé de courir le risque et son audace avait payé. Il était content d'avoir rendu ses chats à Agatha, mais il doutait beaucoup de ses talents de détective. Les meurtres s'étaient multipliés, et elle n'avait pas été fichue de découvrir les coupables. «
Sûr que je ferais mieux qu'elle, » se disait Jimmy, « et que je me débrouillerais pour savoir si l'évêque a buté l'héritière. »
Agatha, de son côté, se sentait extrêmement abattue. Elle avait l'impression d'avoir été plongée dans un énorme délire émotionnel. Qu'est-ce que ça signifiait, cette histoire avec Terry ? Juste une affaire de réaction chimique ? Pourtant, ça ne ressemblait pas à ses obsessions habituelles. Elle avait vécu le grand amour, celui dont on parle dans les légendes et dans les poèmes. L'automne avait saisi la campagne entre ses doigts de brume et l'humidité suintait du toit de chaume de son cottage. Agatha avait assisté au mariage de James. Elle lui avait même offert un cadeau en lui adressant des vœux de bonheur, passant outre la jalousie que lui inspirait la beauté de Nadia. C'était un progrès, assurément. Elle se reprochait toutefois d'avoir négligé de contacter Lawrence Crowther, le fermier fiancé à Jennifer. Julian l'avait déchargée de l'enquête quelques semaines plus tôt et elle s'était contentée d'honoraires modestes, mesurant à quel point elle avait bâclé son travail. Sa réputation venait d'en prendre un sacré coup et le mot était faible. Non seulement elle passait pour une briseuse de ménage, mais elle faisait preuve aussi d'une imprudence tellement stupide que n'importe qui pouvait entrer chez elle pour commettre un meurtre ou kidnapper ses chats. Au bout du compte, elle avait fait installer des portillons métalliques pour protéger son cottage et c'était elle qui se sentait en prison. Agatha annonça à son équipe que même si on ne la rémunérait plus pour ce travail, elle comptait essayer une dernière fois de retrouver Jennifer morte ou vive. Gardant Tony avec elle, elle attribua diverses missions au reste du personnel. Vous êtes déjà tombée amoureuse ? Demanda-t-elle à sa jeune assistante pendant qu'elle roulait vers la propriété de Crowther.
Je l'ai cru un moment, mais jusqu'ici j'ai eu la chance de ne jamais être amoureuse pour de bon.
Manifestement, ça rend les gens complètement dingues.
Vous avez un exemple ?
Oui, j'étais en classe avec une fille qui se croyait enceinte d'Elvis.
Je ne vous parlais pas des demeurées, là. Je parlais de romantisme, de poésie.
Laissez-moi réfléchir.
J'en ai ras-le-bol de cette pluie. Dire qu'on nous promettait un été indien.
Le silence retomba entre elles, rythmé par le ronronnement du moteur et le va-et-vient des essuie-glaces.
J'ai peut-être un autre exemple,
finit par répondre Tony.
Mais c'est une histoire triste. Une fille dans mon genre. On était dans une école pourrie. Et moi, j'essayais de m'endurcir pour sortir de là. Je fréquentais la bibliothèque et ça demandait pas mal de courage, croyez-moi. Quand je rentrais chez moi, des garçons me rattrapaient. Ils m'arrachaient mes livres et les piétinaient. J'étais en larmes, mais la police n'intervenait jamais. Il n'y avait qu'une fille qui me ressemblait dans toute l'école. Un jour, j'ai vu qu'un garçon l'attendait à la sortie avec un bouquet de fleurs. Quand il s'est approché, elle a rougi un peu et puis ils sont partis ensemble. Je l'ai recroisée quelques jours plus tard. Et elle avait l'air de flotter sur un nuage. C'était très bizarre. Elle paraissait comment on dit déjà ?
Euphorique ?
C'est ça. C'était assez flippant, en fait. On aurait dit qu'elle avait trouvé Dieu, alors qu'elle venait juste de perdre sa virginité.
Comment vous l'avez su ?
Les garçons ne se sont pas privés d'en parler dans les toilettes. La fille a appris que le type avait parié avec ses copains qu'il réussirait à se la taper. Ce gars était un tordu dégueulasse. Il a très bien simulé le côté romantique. Elle flottait sur un nuage, comme je disais, et elle n'a rien vu venir.
Je présume que la fin du film est atroce et que la fille s'est suicidée ?
Mais non, tout s'est bien terminé.
N'en doute pas un instant, dites-moi tout.
Je vous jure que c'est vrai. La star de l'équipe de foot, un certain Roger McVie, l'a prise en pitié et il a commencé à faire le chemin avec elle. Un jour, il est allé casser la gueule au type qui l'avait séduite et après ça, ils se sont fiancés. Toutes les filles étaient jalouses.
Vous venez d'inventer le dénouement,
soupira Agatha.
Pour une fois, plaida Tony, ce serait génial d'entendre un happy end.
Donnez-moi quand même la vraie version.
Overdose. Elle a été sauvée in extremis et sa famille a déménagé. Voilà, c'est fini.
Et pourtant, cette expérience l'avait transfigurée au début. Elle rayonnait, c'était juste incroyable. Vous...
Bon, ça suffit comme ça. On est bientôt arrivés, non ?
Tony préféra abréger, se rappelant la brève passion d'Agatha pour Terry.
Oui, en effet.
Et on fait ça bénévolement ?
Eh oui. J'ai dans l'idée que c'est l'évêque qui a kidnappé mes chats.
Agatha, je vous rappelle que celui qui a tué Terry et embarqué vos chats a très bien contourné le système de sécurité. Je l'ai fait remplacer après la mort de Terry et une deuxième fois après l'enlèvement des chats.
Ce qui signifie qu'un des employés de la société est un escroc.
L'église organise souvent des stages de réinsertion pour les délinquants. Vous croyez vraiment que Peter est capable d'aller aussi loin ?
Ce n'est pas exclu.
Peter est une ordure obsédée par l'argent.
J'ai les fermes en horreur.
Surtout par temps de pluie, il y a de la boue partout.
Pas ici, l'allée est goudronnée.
Agatha se gara dans la cour et chercha nerveusement dans sa poche la bombe d'autodéfense dont elle se séparait rarement. Elle vit apparaître un jeune homme sur le pas de la porte, affublé d'une espèce de caftan à ramages vert et or. Il avait une petite figure triangulaire et des yeux d'un noir de charbon.
C'est pourquoi ?
Lui cria-t-il. Agatha lui exposa rapidement le motif de sa visite. Le jeune homme rentra dans la maison et, après un instant d'hésitation, elles le suivirent dans un couloir dallé qui menait à un bureau exigu, garni de livres.
« Asseyez-vous !»
leur commanda-t-il en désignant un canapé.
Dehors, la pluie tombait plus drue et le vent hurlait lugubrement sous l'avant-toit.
« Vous recherchez toujours Jennifer ? » demanda-t-il à Agatha.
« Oui. Vous croyez que c'est moi qui l'ai liquidée ?
Allez savoir.
C'est bien le cas ?
Non, mais je n'en dirai pas autant du doyen.
Quand j'ai voulu savoir pourquoi elle avait quitté Peter, Jennifer m'a répondu qu'il courait après son argent.
J'ai entendu parler d'un prédicateur américain.
Je suis au courant moi aussi. Tout le monde avait l'air de connaître l'histoire, mais personne n'a été capable de me donner son nom ni de me le décrire.
Si vous voulez mon avis, Jennifer est morte.
Il s'était rendu à la cuisine et le décor ressemblait à un intérieur d'agriculteur typique. Vu l'apparence de son hôte, Agatha s'attendait à davantage de style. Intriguée, elle lui posa la question. « Vous travaillez vraiment dans l'agriculture ?»«
Je pourrais vous demander si vous êtes réellement détective. Après tout, ni vous ni moi n'avons le physique de l'emploi. »«
Comment avez-vous rencontré Jennifer ?»«
Dans une soirée de chasseurs. Elle pleurait toute seule dans son coin. » Il se trouve que l'évêque lui avait réclamé un don pour sa maison de retraite et ses conseillers financiers tenaient à vérifier le bilan comptable avant qu'elle verse quoi que ce soit. Ils se sont braqués l'un contre l'autre, l'évêque a piqué une crise et d'après Jennifer, le doyen a menacé de lui casser les deux jambes. Je l'ai encouragé à prévenir la police et une semaine plus tard, on était fiancés.
« Pourquoi ça ?» coupa Tony. Krauser la jaugea de ses yeux noirs.
« Parce que j'étais amoureux, ma belle !» C'est une réponse satisfaisante ?
Pas du tout. Vous n'êtes pas du genre à tomber amoureux aussi facilement. D'après moi, vous êtes dans l'agriculture à cause des avantages fiscaux. Et Jennifer aussi pouvait vous rapporter de l'argent. L'espace d'une seconde, une lueur reptilienne brilla dans les yeux de Krauser, puis il se mit à rire à contre-cœur.
On peut dire ça comme ça, si vous voulez.
Vous pourriez nous décrire la personnalité de Jennifer ?
Je crois qu'elle a été toxicomane à une époque. Elle me faisait penser à un personnage de Godot. On aurait cru qu'elle attendait une espèce de révélation. Ce dont elle avait vraiment besoin, c'était d'un substitut parental.
Vous connaissez son père et sa mère ?
N'importe qui pèterait un plomb avec ces deux-là.
Qui de vous deux a décidé de rompre ?
S'enquit Agatha.
Elle loucha avec envie sur un cendrier en verre, très tentée par une cigarette.
C'est moi, admit Krauser. Je ne la supportais plus. Elle me collait et elle faisait sans cesse des crises de larmes. Peut-être qu'elle s'est suicidée, finalement.
Dans ce cas, je pense qu'on l'aurait retrouvée, fit valoir Agatha. Les suicidaires ont envie qu'on les retrouve.
À moins qu'elle se soit donnée la mort au domicile de ses parents,
argua Tony.
Où voulez-vous en venir ? Fit Agatha. Et elle demanda à Krauser.
Je peux fumer ou ça vous gêne ?
Oui.
Oui quoi ? J'ai le droit de fumer ou ça vous dérange ?
Ça me dérange.
Laissez-moi vous expliquer, reprit Tony. Il y a 2 ans de ça, je me rappelle avoir lu l'histoire d'une ado qui s'était pendue chez elle et qui avait laissé une lettre pour accuser ses parents. Pour éviter un scandale, ils ont enterré le corps dans le jardin, mais un voisin les a surpris et a prévenu la police.
Tout est possible, conclut Krauser d'un ton sentencieux.
Bien, vous avez assez abusé de mon temps. Au revoir.
Alors, que pensez-vous de lui ? S'informa Agatha en se garant devant le peuple le plus proche. Vous n'imaginez quand même pas se lever aux aurores pour traire les vaches ?
Tout à l'heure, je regardais dehors pendant qu'on discutait. Et il a l'air d'employer pas mal de gens. Et ils étaient tous d'un calme incroyable. Soit ils les terrorisent, soit ils leur paient des salaires faramineux.
D'accord, j'étais placée derrière un double vitrage, mais quand même, ils ne s'adressaient même pas la parole.
Ah, j'y repense. Il faut que je vous raconte quelque chose. Je vais attendre que vous soyez servie.
Agatha découvrit avec joie que le pub proposait une terrasse fumeur, quelques tables protégées par un paravent en plastique. Elle alluma une cigarette après avoir commandé un double gin tonic.
« Le paquet est passé à 11 livres, non ?» lui demanda son assistante.
« Et alors, c'est un luxe que je m'offre. Vous ne deviez pas me parler de quelque chose, au fait ?»«
J'hésite un peu. Ça concerne le mariage de James. »«
Allez-y, je vous écoute. »
Hier soir, j'avais rendez-vous avec quelqu'un, assez décevant d'ailleurs. Il avait l'air sympa au début, mais quand on s'est retrouvé au Georges, il s'est comporté comme un petit bourge, m'as-tu vu ? Il parlait fort, il ricanait comme une baleine. À un moment, je me suis enfuie aux toilettes, juste pour avoir la paix 5 minutes. J'ai dû traverser la salle de restaurant, et là, j'ai vu James et Nadia installés dans un coin. Elle ressemblait à un mannequin. Robe en mousseline noire. Je me fiche de sa tenue,
trancha Agatha d'une petite voix.
Venez-en plutôt au fait. Il ne s'adressait pas la parole.
Oh, si ce n'est que ça. Des chamailleries de couple, vraisemblablement.
Non, ils avaient l'air de s'ennuyer ensemble.
De toute façon, je me demande bien pourquoi il l'a épousée.
Elle est superbe, Agatha. Vous apprendrez, Tony, que les belles couleurs de l'amour résistent très mal à l'usage.
Je ne connaissais pas l'expression, fit Tony en pouffant de rire.
Et puis James a un caractère difficile. Je ne vois pas Charles ces derniers temps,
biaisa Tony. Agatha adressa un signe au serveur pour renouveler les consommations.
C'est vrai qu'il ne s'était jamais absenté si longtemps. Je suppose qu'il court encore après une héritière.
Bon, revenons-en à ces meurtres. Pour le policier assassiné, ça me paraît assez clair. Il comptait révéler des infos à la presse. Et je pense qu'on a tué Terry pour me pousser à lâcher l'enquête. À moins que j'aie été visée et qu'il se soit simplement trouvé à ma place. Mais tout ça ne me dit pas comment il est entré.
Rappelez-vous, c'est le mari de Doris qui lui a ouvert la porte.
Ah oui, c'est vrai.
Passons à Millicent maintenant. Elle avait sûrement découvert quelque chose. Et en plus, elle tournait autour de l'évêque. On devrait aller interroger Mavis.
Le pub propose des steaks et de la tourte aux rognons, signala Agatha avec envie.
Trop lourd, lui objecta Tony.
Si on mange ça, on n'aura plus l'énergie de s'attaquer à une Mavis Dupin.
Vous avez raison. La vérité, c'est que je me passerais bien de remettre les pieds dans ce village.
Pendant qu'Agatha fumait une cigarette dans la voiture, Tony alla frapper à la porte du manoir. Comme personne ne lui répondait, elle tenta sa chance à l'église. Agatha et son équipe s'étaient habituées à la beauté de Tony, à sa blondeur, à ses yeux bleus et à sa silhouette irréprochable. Mais pour Mavis Dupin, ce fut un peu comme une vision céleste. Quand elle découvrit la jeune fille derrière elle, un rayon de soleil traversait un vitrail pour se poser sur sa longue robe en coton blanc. Mais à l'instant où Mavis allait se prosterner devant elle, la lumière disparut et elle réalisa que les anges ne portaient pas de sac à main.
« Vous venez visiter l'église ?»
demanda-t-elle.
Je suis sûre de vous avoir déjà vu quelque part.
J'ai assisté à la visite de l'évêque,
mentit la jeune détective, qui préférait éviter de mentionner sa profession.
Ah, ce cher évêque!
Mavis se rapprocha doucement. Ses brogues ne faisaient quasiment pas de bruit sur les dalles de la travée.
Vous savez qu'on doit se marier, lui et moi?
La presse a publié un faire-part?
Oh non! Il y a tellement de femmes jalouses! Et puis je ne le fais pas seulement pour moi. Je pense à ma pauvre sœur décédée.
Elle jeta un regard entendu à Tony, puis lui fit un clin d'œil en déclarant solennellement.
« Je connais l'identité de l'assassin !»«
Et de qui s'agit-il ?»«
Vous le saurez après le mariage !»
chuchota Mavis. Malgré la moiteur de l'atmosphère, Tony sentit la chair de poule lui hérisser la peau. Mavis était maintenant tout près d'elle, et une lumière intérieure semblait émaner de sa personne.
« Je vais épouser un homme bien. Il doit annoncer nos fiançailles samedi prochain. »
Ce samedi a quelque chose de spécial?
C'est le jour de l'inauguration de la maison de retraite de l'évêque.
Tony se remémora alors ces mots d'Agatha.
Certaines personnes ont le don de vous rendre claustrophobe. Et ce qui se dégageait de Mavis la mettait au bord de la nausée.
La jeune fille s'éclipsa après un rapide signe de tête.